L'université de Sorbonne Nouvelle quitte le site de Censier, niché au cœur du 5e arrondissement parisien. Les bâtiments des années 1970 seront occupés à nouveau par des étudiants après des travaux de réaménagement et de désamiantage. Entre-temps, un créneau de 2 ans s'ouvre pour un nouveau lieu éphémère, Césure. L'Eporif, propriétaire des lieux, a contracté avec Plateau Urbain pour l'aménagement temporaire et l'animation des locaux pendant cette période. Les 25 000 m² seront dédiés pour un temps au savoir inattendu, avec près de 200 structures accueillies, des artistes, des acteurs de l'ESS, des médias indépendants, 2000 étudiants qui fréquentent encore les lieux, une immense salle polyvalente de 900 m², une bibliothèque universitaire transformée en cantine par Yes We Camp, un amphithéâtre et plein d'autres recoins pour imaginer de belles choses. Projet d'envergure, le montage de Césure a également été l'occasion de structurer un cadre juridique équilibré qui pourra servir à d'autres lieux, même beaucoup plus modestes. Plutôt que de naviguer dans un flou assez commun dans ce type d'opération, le bail précise les responsabilités, assure la transparence des relations sans pour autant figer les choses. Cette souplesse est essentielle, tant les incertitudes sont nombreuses sur les aspects techniques comme les usages. La multiplication des opérations et la professionnalisation des acteurs ont permis progressivement de développer de vrais savoir-faire spécifiques de l'occupation temporaire. Créer les conditions techniques d'une occupation d'un bâtiment pour quelques années, c'est hybrider les pratiques de l'architecture de la transformation à celles de l'événementiel. À cela s'ajoute une attention soutenue à la sobriété des moyens déployés, quitte à faire des compromis sur les usages et une relation étroite entre technique et programmation, que l'on retrouve aussi dans l'organisation des lieux culturels. Mais s'il faut traiter des questions très pragmatiques, telles que les responsabilités assurantielles, la réglementation incendie, les branchements électriques ou les installations sanitaires, c'est bien pour accueillir des utilisateurs. Et à Césure, il n'en manque pas. C'est tout un métier d'organiser ce bazar pour que chacun trouve sa place en laissant de la place aux autres, pour que le frottement soit créatif et pas douloureux, pour rendre tout cela lisible et ouvrir le quartier, le lieu au quartier, comme au reste du monde. C'est un tiers-lieu hybride par la multiplication des acteurs et des usages. Un espace commun fugace, un espace public en fait. C'est un morceau de ville qui apparaît sur la carte pour un temps seulement, mais qui se pense et se gère comme tel. La visite des lieux commence dans un instant, en compagnie de Paul Citron, qui a participé à monter le projet Césure et qui participe au Collège des experts de Plateau Urbain. Il sera rejoint ensuite par Alban Senot, le responsable de la programmation de Césure pour Plateau Urbain. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui explore la nouvelle fabrique des territoires. Retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute.
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise.
Ici, on est dans l'ancienne fac de Censier. On est donc dans le 5e arrondissement de Paris, en plein centre de Paris. C'est un bâtiment qui date des années 70, qui accueillait donc l'université Sorbonne Nouvelle, principalement. L'université est partie. Le bâtiment va être désamianté pour redevenir par la suite une université. En attendant qu'il lance les travaux d'amiantage, le propriétaire qui est l'EPORIF, donc l'établissement public qui gère le foncier des universités, a fait un AMI auquel seul Plateau Urbain a répondu pour ne pas laisser ce bâtiment vide et faire en sorte que ces 25 000 mètres carrés en plein Paris soient utilisés pendant au moins 2 ans, et peut-être un petit peu plus, le temps de lancer les travaux. La particularité, donc, c'est que c'est un tiers-lieu qui est hybride, parce que donc il accueille à la fois encore des fonctions universitaires avec différentes universités. Donc il y a Paris 1, il y a le Muséum d'Histoire Naturelle, il y a les Arts Déco et une école de paysage qui sont là. Et en même temps, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent venir travailler ici, des associations, des artistes, il y a des médias indépendants, beaucoup de créateurs de contenu. Et donc, ce bâtiment, c'est un outil, en quelque sorte, un outil de travail, un outil d'apprentissage. Et l'idée, voilà, c'est de mutualiser des locaux, de mutualiser des espaces d'exposition. Tu iras voir tout à l'heure, voilà, c'est un peu les salles d'expo. Il y a l'association Yes We Camp qui a ouvert une cantine et un café. Donc l'idée, c'est qu'il se passe pas mal de choses pendant ces 2-3 ans que va durer l'occupation temporaire. Et je pense que un des trucs à retenir de ce projet, c'est le caractère exemplaire de la mise à disposition par un acteur public d'un bâtiment à des fins d'intérêt général, et avec, notamment si on rentre un peu dans le détail, un bail passé entre le propriétaire public et l'opérateur, donc Plateau Urbain, qui est une coopérative, qui est un bail très équilibré, dans le sens où les responsabilités sont extrêmement partagées, et étant donné que c'est toujours des opérations dans lesquelles on peut pas du tout prévoir, avec un nombre d'inconnus, de problèmes techniques qui peuvent apparaître au cours de l'occupation, parce qu'on est sur un bâtiment qui a 50 ans et forcément il y aura des problèmes techniques à un moment ou à un autre, ben là c'est un bail qui prévoit à chaque ligne quasiment des clauses de revoyure, des moments où on se parle, des moments où, si c'est trop le bazar, on peut sortir, ils peuvent sortir, voilà. Et donc, et en fait, c'est, je pense que c'est un contrat qui ne fige pas les choses et qui, au contraire, offre des portes des solutions sur tous les termes de l'occupation. Et je pense que c'est un nouveau cran dans la mobilisation du foncier public à des fins d'intérêt général, parce que le cadre juridique de cette occupation permet finalement de le faire dans des bonnes conditions.
Avec une répartition des rôles sur qui gère techniquement, qui adapte, qui finance, mais qui anime aussi les lieux, donc qui change ou qui est clarifié par ce contrat ?
Alors, globalement, la répartition des rôles, elle est claire. L'EPORIF met à disposition le bâtiment pour Plateau Urbain, et Plateau Urbain est responsable du côté technique, de la programmation, de l'animation, etc. Ensuite, Plateau Urbain s'est entouré de gens qui savent très bien le faire, comme Yes We Camp sur le côté aménagement et sur le côté exploitation de la buvette, programmation. La programmation, elle est répartie entre Plateau Urbain et Yes We Camp. On a fait aussi appel à Vraiment pour imaginer la signalétique, imaginer un petit peu le fonctionnement. Donc à chaque fois, on a quand même des cadors dans chaque secteur. Et pour le propriétaire, c'est facile parce que voilà, il a un interlocuteur unique qui est Plateau Urbain. Alors on rend des comptes, et je pense que c'est ça aussi qui est hyper important, c'est la transparence, parce que si on paye pas de loyer pour exploiter un bâtiment, bah la moindre des choses, c'est d'être transparent sur les modèles économiques, etc. Donc on a il y a des modèles économiques qui sont attachés au bail, et du coup on sait, et de la même manière, on sait que si on dépasse par le haut ou par le bas, et ben on se retrouve pour en parler. Il y a des règles qui sont mises comme ça. Donc à chaque fois, tout est cadré sans être figé, et c'est ça qui est intéressant.
C'est quelque chose qui tient et qui est cohérent, parce que on parle de 25 000 mètres carrés, parce qu'il y a une institution en face, parce qu'on est à Paris, ou est-ce que c'est quelque part une avancée aussi, vous, de votre côté, de votre mode de pensée, d'organisation de la relation finalement avec le propriétaire sur ces temps courts, qui pourraient être aussi adapté à l'occupation ou la création d'interlieux temporaires de 500 mètres carrés en secteur rural ou autre. Il y a des apprentissages qui
je
sont...
Je pense que au niveau juridique, c'est pareil. La question est toujours comment tu répartis les risques et les responsabilités et comment tu fais en sorte que les risques ne reposent pas sur les épaules du petit, du plus faible, et donc notamment justement voilà dans des petits tiers-lieux où les porteurs de projets qui ont aussi éventuellement qui sont pas aussi bien conseillés que les propriétaires ou les collectivités qu'ils ont en face d'eux peuvent se retrouver à assumer des responsabilités et donc des risques juridiques qui sont considérables et qui à mon avis mériteraient d'être un peu vu et mieux réparti, tout simplement.
Ouais, et donc ça peut faire partie. L'expérimentation qui a lieu là-dessus, aussi là-dessus, sur ce lieu, pourrait sans doute inspirer d'autres. On va aller visiter quand même.
Ouais. Hein.
Bonjour.
Bonjour.
Peut-être qu'on pourrait commencer par se présenter.
Ouais, carrément. Donc bonjour, moi je suis Alban et je suis le responsable de la programmation de Césure pour Plateau Urbain.
Bonjour, Paul Citron. J'ai participé à monter le projet Césure et désormais je fais partie du collège des experts de la SIC Plateau Urbain.
Et donc on part en visite.
Exactement. Et on va ressortir pour re-rentrer. On va prendre le chemin que prendra le public quand on aura notre autorisation d'ouverture au grand public.
Hop. Donc il n'y a pas de doute, hein, on est bien sur un bâtiment universitaire.
On est bien sur un bâtiment universitaire qui continue à accueillir à peu près 2000 étudiants par... Je ne sais pas si c'est par jour, mais en tout cas, on a 2000 étudiants qui continuent à fréquenter le site, qui sont plus des étudiants de Paris 3, mais qui sont des étudiants de Paris 1 principalement, et du Muséum National d'Histoire Naturelle, de l'ENSAD, donc les Arts Déco, et de l'ESAGE, qui est une école du paysage.
Ouais.
Et qui se mélange en fait avec les 180 structures différentes qui pour le coup travaillent ici au quotidien, que ce soit des artistes, des associations, des entreprises de l'ESS, ce qui ressemble un peu plus à ce que fait Plateau Urbain sur les autres sites. Ici, la particularité, c'est donc qu'il y a ces étudiants qui sont là au quotidien, qui savent pas forcément d'ailleurs où ils sont.
Oui.
Ils savent pas forcément, tiens, on peut commencer ici. Qui sont plus exactement dans une université. Donc ça donne des rencontres assez drôles.
Bonjour.
Et on commence par ce qu'étaient les anciennes bibliothèques universitaires.
D'accord, un espèce d'immense hall.
Ouais.
Où on voit qu'il y a des travaux de cloisonnement qui commencent. C'est
exactement,
ça
parce qu'en fait la salle était trop grande.
Elle fait 1000
mètres carrés. Et on l'a cloisonné un petit peu pour qu'elle n'en fasse plus que 900. Pour des histoires de RP, effectivement, on dépassait, sinon on explosait la jauge du bâtiment, donc on a un petit peu réduit. Mais c'est une salle qui est assez incroyable, on voit encore les rayonnages par terre des livres, et c'est une salle que même les étudiants qui ont étudié ici n'ont jamais vue comme ça, complètement vide. Donc elle est assez impressionnante, et elle va nous servir à beaucoup de choses événementielles, d'accueil de public, que ce soit des expositions qu'on va essayer de faire suspendues, pour pouvoir... Les observer du dessous.
On doit avoir 6 mètres de plafond.
Ouais,
ou
ouais, hein, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est à peu près ça.
Et donc là, vous réduisez.
Là, on a réduit
la taille pour réduire la jauge et donc réduire les contraintes.
ERP.
Donc établissement recevant de public.
C'est
donc
ça,
les contraintes exactement. Associées notamment au risque incendie.
Ouais, c'est exactement ça.
D'accord.
C'est exactement ça. Là, du coup, avec la paroi qui a été montée, on n'est plus qu'à 900 mètres carrés. J'ai plus la jauge en tête, mais
donc on sous-optimise l'usage du bâtiment, mais
exactement.
Pour trouver le bon équilibre.
Exactement, puisqu'évidemment l'idée c'est que cette salle serve et qu'on puisse aussi continuer à se servir du reste du bâtiment. Donc on a été obligé de faire des petits calculs comme ça pour réduire un peu les choses. Et c'est une salle où il y a énormément de formats différents qui peuvent être imaginés, parce que c'est un peu une grosse boîte vide.
Ouais.
Et donc, on a autant des choses très, très ludiques, type ball roller, que ce que je disais, des expositions, des marchés aussi.
Une salle à tout faire.
C'est un peu notre salle à tout faire, et on l'aime beaucoup. Elle est assez impressionnante. En général, il y a un petit effet waouh quand on rentre dedans, comme elle a quand même des volumes assez impressionnants. Ça, c'était la deuxième bibliothèque universitaire. dites la petite, c'est ça, qui ne fait que 450 mètres carrés.
Ce qui est déjà pas mal.
Qui est déjà pas mal.
Et qui aujourd'hui est une cantine.
Et qui aujourd'hui exactement est une cantine qui est portée par Yes We Camp. Pas uniquement portée, mais qui a été complètement transformée. C'est-à-dire que le sol, c'était de la moquette très très moche qui a été complètement retransformée pour avoir cet effet béton. Tout a été fait complètement sur mesure ici, de la construction bois à la peinture. C'est vraiment un gros travail qui a été fait en 2 mois.
Donc là, c'est un des deuxièmes acteurs cités, Yes We Camp. Bonjour.
Enchanté.
Sylvain Grisot, Dixit.
Moi, je suis Elsa Buet, je coordonne le diplôme universitaire Espace Commun.
D'accord. Qu'est-ce que c'est ce diplôme ?
C'est un diplôme qui forme à la fois des praticiens des espaces communs, des gens qui ouvrent des lieux et aussi des personnes qui ont envie de se former à ces enjeux-là, qui peuvent être architectes, urbanistes, travailler dans des collectivités.
Je pense qu'il faudrait que vous vous rencontriez pour de vrai.
Je pense vraisemblablement qu'on prolongera cette conversation, très volontiers en tout cas. Donc on institutionnalise finalement ce type d'activité par de la formation.
Tout dépend ce qu'on appelle institutionnaliser.
Au sens pérennise peut-être.
Ouais, bon, on partage des bonnes pratiques, on s'inspire les uns des autres, on essaye d'apprendre en dehors des bancs de l'école.
Et c'est de diffuser, quoi.
Oui,
hein.
Voilà, tout à fait.
En parlant d'espace commun.
Ouais, ben, nous, on parle d'espace commun, parce qu'on trouve que le mot tiers-lieu, il peut être un peu galvanisé, et espace commun, il ouvre vers d'autres espaces,
ouais.
Des espaces publics, des espaces qui ne sont pas forcément physiques. Mais après.
Et en tout cas, on sort clairement du tout transitoire ou du tout temporaire.
Ouais, clairement. C'est ça, oui, c'est ça, tout à fait.
Bah oui, on prolongera.
Ouais, avec plaisir.
Ouais, volontiers. On a pas mal.
Tu veux un café froid ?
Je veux
un café chaud, je crois, là-bas.
Alors, s'il y a un café chaud, en fait, je veux bien la version café chaud.
Et du coup, pour rebondir un peu sur ce qu'elle racontait par rapport à cette salle, on est complètement dans l'espace commun ici. Là, il y a des restes de ce qu'on a pu me proposer hier. Parce que ici, c'est un lieu, comme c'est une ancienne université, qui est thématisée autour de la transmission des savoirs. Et ça se ressent autant mieux dans la présence des étudiants que dans les 180 structures qui vont être présentes, qui ont toutes un lien assez fort avec cette thématique-là, que ce soit des cours de français langue étrangère, que ce soit des cours d'informatique pour des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, des choses comme ça. Même les artistes ont tous une approche de transmission, d'atelier. On a la chance d'être dans une ancienne fac, donc on a énormément, pour ne pas dire que des salles de cours, qu'on a complètement retransformées. Mais
on peut citer d'autres acteurs, justement, de la formation qui commencent à hanter les lieux.
Ouais, carrément. Il y a Connexio, avec un K, qui est un acteur pour le coup qui travaille beaucoup sur l'informatique et sur l'aide aux personnes qui sont éloignées de l'emploi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme acteur de ce type?
C'est pas une interro, hein.
On
mettra la liste de toute façon.
Ouais. Carrément. Sur les 180, celles qui sont vraiment à fond sur la question de la transmission des savoirs. Il y a Kabubu aussi, qui est une association de sport, mais qui fait du sport avec des personnes réfugiées. Et donc, qui fait le lien entre les gens qui habitent la ville au quotidien et des réfugiés. Et du coup, on a la chance d'avoir une salle de sport au rez-de-chaussée. Ça permet de créer un peu aussi ces porosités avec et le quartier et ce qui se passe à l'intérieur.
C'était les petits débs.
Les petits débrouillards, bien sûr, évidemment.
Les plus gros assauts du quartier populaire de France.
Ouais, les petits débrouillards qui organisent effectivement tout un cycle de conférences ici autour de sujets souvent assez scientifiques. Et du coup, il le traite évidemment sous une version éducation populaire et avec un angle qui leur est assez propre. Mais c'est assez chouette de les avoir ici parce que ils organisent plein de choses autour de cette question de la transmission des savoirs. Il y a aussi l'Université de la Pluralité.
Oui.
Qui fait aussi de la transmission des savoirs et de l'éducation populaire, mais avec un angle un petit peu différent pour le coup. Là, ils ont tout un cycle de conférences qui va commencer autour de l'imaginaire, des imaginaires, parce qu'ils le disent au pluriel, évidemment. Et nous, à côté de ça, on vient et les aider à s'inscrire dans les différents espaces et en même temps apporter des choses en plus avec des acteurs de l'extérieur. Ici, hier, par exemple, là, c'est une exposition d'une résidente qui est une réalisatrice ukrainienne qui, pour le coup, est là dans l'ancienne loge du gardien qui a été transformée en résidence d'artiste plus courte, pour le coup, où l'idée, c'est qu'elle puisse et développer son projet ici, donc travailler sur son prochain film, et en même temps se servir des espaces pour imaginer, là en l'occurrence, une exposition. Elle a pu présenter son travail en cours aux personnes qui étaient là, qui, elle, était venue au départ pour une conférence sur l'urbanisme transitoire et sur les nouveaux métiers de l'urbanisme transitoire qui était porté par Plateau Urbain, et qui, après, en venant simplement boire un coup à la fin de la conférence, se sont retrouvés à discuter avec Oksana, qui, elle, venait leur présenter son projet. Et du coup, on a un peu toutes ces porosités aussi qui se créent avec ces différentes structures.
Avec les étudiants, avec des acteurs du lieu, avec aussi donc des gens de l'extérieur, même si l'ouverture au public n'est pas encore là. Ouais. On a déjà des gens qui viennent de façon plus ponctuelle. Donc, on retrouve un commun dans l'usage, mais aussi dans la fréquentation du lieu.
Oui, complètement.
On continue
On continue. Attends, je vais ça là, moi. Je reviendrai le prendre après. Hop là.
Sur le trajet des manifestations actuelles.
Oui, complètement.
Ça fait à chaque fois un peu d'ambiance.
Ouais. Il y a toujours un petit stress.
Étudiants, CES.
On prolonge la tradition étudiante.
Exactement. Alors là, on va rentrer dans du linéaire et du linéaire de couloirs et d'anciennes salles de classe qui sont toutes un peu transformées, plus ou moins bien décorées d'ailleurs, selon les structures. Tiens, ces connexions dont je parlais tout à l'heure, qui du coup fait ce travail auprès de personnes éloignées de l'emploi autour de l'informatique. Là, on a des cours de couture, pour le coup, avec Janine et moi, et le chat d'Albertine. Là, il faut parler un peu plus bas pour ne pas les embêter, mais c'est la salle commune des étudiants.
D'accord.
Parce qu'évidemment, il faut quand même un espace commun pour les étudiants. Bon, là, c'est vendredi, donc c'est assez calme.
Vendredi matin,
il y a un peu moins
de monde. Il y a en général moins de monde.
Ouais. Bonjour.
Bonjour. Mais elle est très utilisée.
Franchement, elle est sympa.
Elle est sympa. Et elle n'avait pas été pensée pour ça. Elle n'a pas été pensée pour ça au départ. Mais en fait, on s'est vite aperçu. Tiens, on va monter parce qu'après, c'est le Crous. On s'est vite aperçu avec les usages qu'en fait, les étudiants avaient nulle part où s'installer dans le bâtiment. Et donc, on leur a vite réservé cette salle-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que les étudiants ont un peu tendance à s'installer où ils voient de la lumière et où ils voient de l'espace vide. Et donc, ça crée parfois des interrogations, je ne vais pas dire des conflits, mais des interrogations d'usage entre des structures occupantes qui, eux, sont là pour travailler, sont dans leur temps professionnel, et des étudiants qui, eux, vont s'installer un peu comme bon leur semble.
Éventuellement dans une salle qui est occupée par une structure.
Éventuellement, alors pas forcément dans les salles occupées par les structures, mais dans les salles communes des structures, parce que chaque étage a une salle commune qui permet de mettre ses affaires dans le frigo, de boire un café, de se poser éventuellement pour des petites réunions. Et effectivement, il y a une manière d'aborder les salles communes qui n'est pas la même entre les étudiants et les structures d'occupantes. Je ne sais pas si Paul, tu as eu des petits sujets avec ça. Mais,
ouais, j'ai vu ça, mais en fait, je trouve ça marrant pour la... Devant les bureaux de Plateau Urbain.
Oui, tout à fait.
On passera tout à l'heure.
Ouais, tout à fait.
Il y a des tables, etc. Et ouais, effectivement, il y a toujours plein d'étudiants qui se posent là. Et ça fait une sorte de mix.
C'est un peu poussé par là. Où tu voulais voir, t'avais quelqu'un en tête par là?
Non,
ou...
pas du tout. Là, il y a le
ils sont deuxième ou deuxième? Tu veux qu'on passe voir? Non, pour moi, ils sont trois. Nous-mêmes, on n'est pas toujours encore à cette là. Ouais.
Et donc là, c'est un bâtiment temporaire.
Oui.
C'est un modulateur. Et donc, il accueille Paris 1.
D'accord. Là, il est réservé à Paris 1.
Ouais.
Ouais. Exactement.
Exactement. Et Paris 1 a quand même quelques cours aussi dans ce bâtiment-là. Mais effectivement, ils ont recentré la plupart de leurs activités en face, qui était beaucoup plus simple. Hop. Est-ce que... J'ai un truc en tête, évidemment, ça m'est passé. On On a Trace aussi qui est un acteur de la transmission des savoirs et de l'éducation populaire qui organise pas mal d'activités autour de sujets tels que la blockchain par exemple ou alors des marchés aussi. Là, on va en avoir un notamment au mois de juin où il y a plein d'échanges qui se font autour de sujets scientifiques et ils travaillent vraiment sur ces questions de vulgarisation scientifique. Et tous ces acteurs-là se parlent, alors qu'ils se parlaient pas forcément d'ailleurs avant d'être dans le même endroit. Là, notre rôle aussi, du coup, c'est de leur proposer un cycle de conférences qui soit un peu cohérent aussi et qui permettent aussi d'attirer le public un peu plus facilement et pas d'avoir les uns et les autres qui se regardent en chien de faïence et qui du coup créent des cycles de conférences un peu concurrents les uns aux autres. L'avantage qu'ils soient là, c'est qu'ils se parlent, ils imaginent aussi des choses ensemble, ce qu'ils faisaient pas forcément avant alors qu'ils se connaissaient très bien.
Alors donc on a l'université, on a plein d'acteurs, là on vient de voir une liste. Alors de la formation mais pas que, hein.
Ouais.
Pas mal d'acteurs de l'urbain aussi,
ouais,
pas mal de gens qu'on connaît bien. On a des lieux communs,
ouais.
Beaucoup, des lieux d'événements,
ouais.
Des lieux ouverts à l'extérieur. Donc un sacré bazar. Toi là-dedans, c'est quoi ton métier ?
C'est un sacré bazar. Alors mon métier justement, c'est d'essayer de faire en sorte que ce bazar gagne en cohérence, on va dire, et en compréhension, notamment beaucoup pour le public extérieur. Nous, on organise toute une programmation qui justement fait le mélange entre faire venir des acteurs extérieurs sur des gros sujets de société dans les espaces qu'on a pu visiter, qui sont des espaces d'accueil du public, et en même temps mêler ces acteurs extérieurs avec les structures occupantes ici, et du coup imaginer une vraie éditorialisation de programmation à partir du thème de la transmission des savoirs et du coup autour de ça, de tout ce qu'on peut broder avec est-ce que vont nous proposer les structures occupantes ici, que ce soit des acteurs de la transmission, que ce soit des urbanistes, que ce soit des artistes, parce qu'il y a aussi pas mal d'artistes ici, et faire venir justement à partir de ce qu'ils nous proposent des artistes ou des penseurs ou des écrivains de l'extérieur qui vont nous permettre de créer des cycles un peu cohérents.
Salut.
Bonjour. Et c'était assez important, je pense, de le proposer comme ça parce que, encore une fois, en termes de public, ça permet de créer aussi une attente du public et aussi de faire du lieu un lieu, encore une fois, pour eux. Par exemple, dans mon rôle, j'ai aussi le fait de créer toute une offre de cours réguliers, que ce soit des choses hyper basiques comme du yoga qui est fait par certains occupants ici ou même du tango qui est fait par une association colombienne qui par ailleurs donne des cours de français aux hispanophones ici et à côté elle propose des cours de tango ou de salsa et en même temps ça permet aux gens du quartier de venir une fois par semaine par exemple à Césure et de s'approprier aussi les espaces et ce qui est pas du tout le cas d'une fac qui est toujours un lieu un petit peu fermé, d'autant plus avec tout ce qui est Vigipirate et tout ça. Finalement, on rentre assez peu dans les facs aujourd'hui. Et donc, c'était un peu l'idée aussi de rendre cet espace-là aux gens du quartier.
Et comment tu te retrouves là ?
Et comment je me retrouve là ? C'est une bonne question. C'est par rapport à mon parcours.
Ouais,
hein.
Ouais.
Moi, j'ai travaillé longtemps à la mairie de Paris et je m'occupais de la création artistique à la mairie de Paris. Donc, je suivais tous les lieux relié à la ville de Paris qui avait un rapport de près ou de loin avec la création artistique professionnelle dans tous les domaines, dans toutes les disciplines artistiques. Et je m'occupais d'événements un peu larges comme Nuit Blanche par exemple qui prenaient beaucoup place dans l'espace public et j'avais la volonté de revenir vers un espace beaucoup plus concret, beaucoup plus immédiat aussi dans la manière de penser la culture et puis aussi de pouvoir mettre en place certaines choses que j'avais pu observer avec la vision un peu macro qu'on peut avoir au niveau de la collectivité et de pouvoir l'appliquer justement sur un lieu qui est à la fois assez énorme, ici il y a 25 000 m² et en même temps qui a plein d'acteurs différents, un peu comme on peut retrouver dans la ville, et l'idée de justement créer à la fois des choses à l'intérieur mais aussi des choses avec l'extérieur et de créer un petit peu ces liens dedans-dehors.
Alors il y a le lien évidemment avec la programmation,
ouais.
sur l'entrée culturelle, le fait d'accueillir des artistes. Il y a aussi des savoir-faire dans l'événementiel,
ouais.
Autour de la culture, sur l'occupation des lieux, y compris l'adaptation technique des lieux pour une soirée, qui sont soumises, quoi qu'il en soit, aux mêmes règles, hein, de sécurité ou autre. Et on retrouve un peu des savoir-faire qui me semble on va retrouver dans l'occupation temporaire. Toi, tu constates des liens, des perméabilités entre ces mondes, un croisement de ces savoir-faire-là?
C'est une bonne question.
Entre l'événement stable et l'occupation
temporaire. Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne question parce qu'on est sur deux laps de temps courts, mais c'est pas exactement le même.
Ouais, ouais.
Et effectivement, c'est des choses que nous, à l'épreuve du feu, on commence à remarquer effectivement. Par exemple, entre l'approche technique d'une équipe d'un site qui va être là pendant 2, 3, 4 ans et l'approche technique d'une équipe de régie événementielle, on voit bien que c'est pas exactement les mêmes manières de travailler déjà, les mêmes usages aussi et les mêmes manières de faire. Je dirais que ça se complète. Ça peut s'apparenter un peu à ce qu'on peut voir dans certains lieux culturels, pour ce que moi je connais en tout cas de mon parcours, où on va avoir vraiment de la partie événementielle, donc la partie régie avec de la régie son, lumière, des choses comme ça. Et puis la partie technique qui va être beaucoup sur le bâtimentaire. Oui. Ici, ce qui est génial, notamment je pense à notre équipe de programmation et de la régie événementielle, c'est qu'ils sont toujours en lien du coup avec cette équipe technique du lieu. Et que eux apprennent énormément de choses et sortent un peu de leur zone de confort, même s'ils viennent au départ de la régie événementielle, ils vont en fait découvrir ce que c'est que gérer un lieu, et c'est assez génial.
Parce que je dirais que une des grosses différences avec l'événementiel, c'est que dans l'occupation transitoire, l'urbanisme transitoire, il y a quand même une immense attention qui est donnée à la sobriété dans l'action. Dans la consommation de voilà, donc on va pas construire un décor pour shooter une scène et puis le détruire derrière. Alors que dans les voilà, je pense qu'il y a aussi dans l'événementiel une capacité à venir très vite faire des gros trucs et pour vraiment pas longtemps, mais qui derrière fait un enfin voilà, il y a ça génère aussi beaucoup de déchets quoi.
Oui, avec des changements de culture aussi sur ces mondes. Mais c'est intéressant de voir comment on a développé des savoir-faire techniques qui sont issus de l'architecture, mais qui sont pas issus de la pratique architecturale traditionnelle. On l'a vu en bas avec la grande salle, où on vient finalement soustraire des espaces pour avoir le bon compromis programmatique et admettre qu'on a des compromis programmatiques pour avoir cette sobriété dont tu parlais. Et en même temps, des savoir-faire qui sont aussi issus du temps court.
Ouais.
Mais j'entends ces différences-là qui sont intéressantes. Donc ça percole et c'est pas la même chose.
Et c'est un peu le pari d'ailleurs qu'on propose aux équipes artistiques, par exemple, extérieures, qui peuvent venir faire un projet sur le site avec des structures occupantes. C'est un peu ce que disait Paul, cette possibilité de faire autrement, qui est aussi du fait des contraintes du bâtiment, c'est-à-dire il y aura jamais un accueil qui sera celui d'un théâtre ou d'un centre d'art, mais justement c'est la proposition de faire un petit pas de côté et de venir proposer autre chose en s'intéressant à la sobriété des matériaux, à une autre manière du coup de s'adresser aussi au public, et avec un public qui est déjà présent en plus ici, c'est un peu ce qu'on propose ici et ce qui fait mouche, on le voit aussi, toutes les équipes qui viennent visiter sont à fond.
Oui, donc à la fois la sobriété et les formes de compromis, c'est aussi un facteur de créativité, en tout cas de changement de pratique.
C'est exactement ça. Du coup, on est passé très vite parce que j'étais concentré sur mon truc, simplement pour raconter peut-être. Là, donc c'est le siège de Plateau Urbain.
J'étais dans le siège de Plateau Urbain sans m'en apercevoir.
Exactement, alors il commence là.
Il n'y avait pas un desk à l'entrée,
avec
la nécessité de signer un cahier.
Le vendredi, c'est...
On parle de sobriété, Sylvain.
Exactement. Non, le vendredi, c'est très télétravail, donc il n'y a pas énormément de monde. Mais en gros, encore un exemple des usages pluriels qu'il y a sur le site. Ici, c'était une salle commune qui était normalement réservée aux réunions de Plateau Urbain. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'avait imaginé au départ. Et en réalité, dans les usages, c'est surtout des étudiants qui viennent s'installer ici, parce que à chaque fois qu'il y a de l'espace, les étudiants ils s'installent, et en l'occurrence ici il y en a beaucoup, et ça leur permet soit de manger, soit de faire des petites réunions, soit de travailler à l'ordinateur. Et ça, c'est que des espaces qui n'avaient pas été forcément pensés au départ, et les étudiants se les sont appropriés eux-mêmes, et c'est assez génial de s'en rendre compte, et évidemment il n'est pas question de leur retirer cet espace aujourd'hui, mais c'est assez génial de voir ça.
C'est intéressant. Donc les étudiants seraient une forme de gaz en fait, qui occupe tous les volumes disponibles.
C'est un peu ça ici, ouais, exactement.
C'était la salle.
Bonjour.
Bonjour. Merci de vous arriver. Qu'est-ce que vous faites ici, vous?
Et vous,
c'est pour... Non, non, mais c'est pour le.
C'est pour le...
La petite bête
qui a, petit a des poils.
En même temps, si je me sens bien.
C'est pas un animal, c'est un micro.
C'est pour Dixit.net.
Coup, qu'est-ce qu'on fait au sein de Plateau Report?
Oui, par exemple.
Moi, je suis en stage pôle événementiel pour les événements privatifs.
D'accord. Et c'est quoi un événement privatif chez Plateau Urbain? Concrètement, ça pourrait donner quoi?
Ça peut être l'organisation de salons ou pour des marques qui viennent faire des événements au sein de des événements corporate.
Par exemple, dans la grande bibliothèque.
Il y en a pas eu encore.
Il y en a pas eu.
Il y en a pas eu encore.
Non, mais il y a quand même une machine à café. On est donc bel et bien sur un siège social.
Exactement.
Exactement, c'est le lieu de vie de Plateau Urbain. Alors moi, ce que je fais ici, je suis chargé d'aménagement, pas sur ce bâtiment, sur un futur bâtiment de Plateau Urbain, qui est le bâtiment qui va s'appeler Les Arches, qui a accueilli l'hôtel de ville. Donc là aujourd'hui, je suis à Césure pour imprimer des plans et les ramener, et je vais continuer à travailler après aux Arches cet après-midi pour préparer l'arrivée des occupants.
Donc là, c'est vraiment la transformation, l'adaptation des locaux. C'est quoi vos termes? L'adaptation des locaux.
Moi, je m'occupe exactement de l'adaptation des espaces communs. C'est-à-dire que plus que des bureaux, on va aménager des espaces communs, des lieux potentiels de rencontres. Aussi des endroits où ils vont manger, où ils vont pouvoir se reposer, pour qu'il y ait un lieu de vie, des rencontres collectives, pour que ce soit plus qu'un bureau. Une définition un peu d'interview, si on veut.
Et c'était quoi avant? C'était un usage de bureau?
Avant, oui. C'était l'ancien siège de la PHP, donc du bureau administratif, des petites surfaces de bureaux qui vont de 8 mètres carrés à maximum 40 mètres carrés.
Et c'est quoi les enjeux techniques, les difficultés d'adaptation d'un immeuble de bureau classique pour le transformer en espace commun, justement?
Bah, c'est ce qu'on va découvrir très bientôt. Je me suis pas encore mis sur la mission, mais effectivement, je travaille en lien intime avec l'équipe technique qui va pouvoir m'apporter des solutions au niveau des réseaux d'électricité, de plomberie, s'il faut mettre des arrivées d'eau, si ça doit devenir une cuisine aussi, pouvoir acheter du matériel de type micro-ondes, plaques de cuisson. Mais les vrais enjeux vont être en fait surtout au niveau de la coordination des futurs occupants pour qu'ils puissent décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire des espaces communs. Moi, je suis là pour coordonner le souhait qu'ils veulent faire de ce lieu, c'est-à-dire émettre des travaux créatifs de type fresques murales ou bien des installations. Je suis là pour mener à bien et pouvoir surveiller les travaux, mais pas forcément pour décider de la direction artistique ou d'usage des lieux.
Très clair. Merci.
Je vous en prie.
Bon boulot.
Merci, salut.
Salut.